C'est Jérémy. Petit message avant de découvrir votre épisode du jour, pour simplement vous demander un petit coup de pouce en quelque sorte. Je viens de prendre mon téléphone et j'ai remarqué comme quoi je suis uniquement à 12 avis d'atteindre les 200 évaluations sur Apple Podcast. Donc si jamais vous possédez un appareil de chez Apple, prenez quelques petites minutes, si jamais le cœur vous en dit, pour me laisser un avis, idéalement 5 étoiles ainsi qu'un commentaire, pour m'aider à mieux faire référencer mon podcast. Sachant que des podcasts comme les miens, généralement, ne sont pas beaucoup mis en lumière. Merci par avance et sur ce, bel épisode. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Épisode dans lequel je vais vous parler de l'importance du timing, de la prise de vos repas, pour augmenter vos niveaux de productivité. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que d'ici la fin de ce podcast, vous aurez les clés pour comprendre quels aliments manger à quel moment précis de la journée pour augmenter vos niveaux de concentration, de motivation et donc de productivité. Donc si actuellement vous avez du mal à maintenir un haut niveau de concentration au quotidien, si vous êtes dans un état léthargique après votre pause du midi suite à la prise de votre repas, ou encore si vous êtes souvent fatigué au cours de la journée, eh bien les outils, les leviers et les stratégies que je vais vous partager vont vous aider. Et si jamais vous me découvrez aujourd'hui, je m'appelle Jérémy Coron et je suis notamment l'inventeur de la méthode neuroproductivité. Une approche de la productivité qui utilise des leviers et des stratégies issues des neurosciences pour augmenter vos niveaux de concentration, de créativité et autres. Et également, je suis l'auteur du livre « Votre cerveau n'est pas programmé pour être productif » paru aux éditions Erol. Ok. Avant de commencer réellement, également, je vous rappelle que vous pouvez télécharger via le lien présent en description la fiche résumée de cet épisode dans laquelle vous trouverez simplement une synthèse des points clés que je vais développer. Également, fiche qui vous donne un accès directement à un forum privé dans lequel vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez. Questions auxquelles, évidemment, je répondrai personnellement. Très bien. Maintenant, quand on parle de timing de la nutrition pour être plus productif, la première chose à comprendre, c'est le rythme biologique que suit votre corps au quotidien. En effet, dans votre cerveau, au niveau du noyau suprachiasmatique, vous avez une horloge, l'horloge interne, dont le rôle est justement de dicter le bon tempo de production de vos hormones au quotidien. Également, c'est cette horloge-là qui va déterminer à l'avance vos pics et vos creux naturels d'énergie en journée. Personnellement, la courbe que suivent vos pics d'énergie et vos creux d'énergie, je lui ai donné un nom. Le nom de courbe biologique de la performance. C'est une courbe du coup qui, lorsqu'on la connaît, lorsqu'on peut la visualiser, lorsqu'on la voit, permet de déterminer à l'avance, justement, vos niveaux de concentration, de motivation, d'efficacité et encore d'énergie. Soit vers le haut, soit vers le bas. Et en fait, connaître cette courbe-là permet d'anticiper du coup les périodes durant lesquelles on peut faire preuve ou non de productivité, ce qui permet simplement de planifier à l'avance stratégiquement nos tâches de la journée. Autrement dit, cela permet de faire nos tâches complexes que notre organisme est biologiquement capable de faire preuve de concentration, de motivation et autres, et de programmer à l'avance nos tâches, on va dire, secondaires, telles que le traitement des emails, telles que les réunions et j'en passe, quand notre corps est biologiquement en phase de creux d'énergie. Et non pas de faire justement tout l'inverse de ce que je viens de décrire. En effet, quand on planifie ses tâches au hasard, donc sans avoir cette connaissance précise de la fluctuation de nos niveaux d'énergie, eh bien on prend un risque énorme au quotidien, à savoir le risque de gaspiller un pic d'énergie en mettant en place des tâches secondaires à ce moment-là, et potentiellement de lutter contre sa propre biologie en planifiant des tâches complexes quand notre corps est en creux d'énergie. Donc quand littéralement il est dans l'impossibilité physiologique, physique et cognitive de faire preuve d'efficacité. Également connaître cette courbe-là permet, pour ce qui va nous intéresser aujourd'hui, de savoir quoi manger, à quel moment précis de la journée, pour éviter de perturber cette courbe biologique de la performance. En effet, les aliments que nous consommons au quotidien peuvent avoir un effet, on va dire négatif, ou positif sur cette courbe. Négatif en effaçant par exemple le pic de concentration, d'énergie et de productivité que nous connaissons au cours de la journée, et positif en le renforçant. On va vraiment s'inscrire dans cet épisode davantage sur le côté négatif, sur comment éviter justement d'effacer ce pic de productivité, ce pic d'énergie, ce pic de concentration. Et pour cela, on va jouer sur deux leviers principaux. Il en existe d'autres, bien évidemment. D'ailleurs, la nutrition n'est pas le seul domaine qui va impacter positivement ou négativement cette courbe biologique de la productivité et de la performance. Mais nous, du coup, on va se concentrer sur deux leviers. Deux leviers qui peuvent influencer, du coup, cette dernière. Premier levier, c'est le fait que les aliments que nous allons ingérer peuvent avoir un impact négatif sur la stabilité de notre glycémie. Donc ça, c'est pour le premier élément que l'on va aborder durant cet épisode. Ensuite, deuxième élément, c'est le fait que les aliments que nous consommons peuvent suractiver notre système digestif, ce qui est un véritable problème quand on cherche à être plus productif, plus concentré et plus motivé au quotidien. Donc, ce que je vous propose à partir de maintenant, déjà, c'est de développer ces deux points-là pour expliquer d'une part ce qu'est la stabilité glycémique dans le corps, ensuite en quoi la suractivation du système digestif peut avoir un impact sur la productivité, et après ça nous verrons des outils concrets, des stratégies concrètes, des leviers concrets à mettre en place pour justement éviter de perturber cette courbe biologique de la productivité et donc nos niveaux quotidiens de performance. Très bien. Mais avant toute chose, je tiens à vous dire que si vous souhaitez voir visuellement parlant à quoi ressemble cette courbe biologique, eh bien je vous invite à découvrir ma routine matinale. En effet, j'ai créé un atelier 100% gratuit qui dure 45 minutes quasiment, dans lequel je présente les actions que je mets en place chaque matin dans les 30 minutes qui suivent mon réveil pour augmenter naturellement mes niveaux de concentration, de motivation, de productivité. Et dans cet atelier, justement, je commence par présenter la courbe biologique de la performance. Donc si jamais vous voulez découvrir précisément ce que je fais moi chaque matin, également pourquoi, par exemple, je mets du sel dans l'eau que je consomme au réveil, eh bien je vous invite à cliquer sur le premier lien présent en description. Très bien. Maintenant, comme évoqué précédemment, rentrons dans les choses concrètes. Et voyons précisément ce que j'entends par perturbation de la glycémie et par tout simplement la suractivation du système digestif. Et quelles sont les implications concrètes de ces deux éléments-là. Commençons par la perturbation de la stabilité de la glycémie. Déjà, qu'est-ce que la glycémie? La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Et votre corps, pour, entre guillemets, bien fonctionner, pour être dans un état dit d'homéostasie, donc de stabilité en quelque sorte, même si l'homéostasie est plus complexe que ça, bien évidemment, eh bien, il faut qu'il y ait dans votre corps environ 1 g de sucre, donc de glucose, par litre de sang. Que va-t-il se passer lorsque vous allez consommer, vous, des aliments riches en glucides, donc en glucose? Eh bien, vous allez perturber naturellement cet équilibre. Un peu à l'image d'un verre d'eau dans lequel on va ajouter un carré de sucre. Et ça, en fait, cette élévation du taux de sucre dans le sang est perçue par votre cerveau comme un danger, comme un facteur de risque pour son intégrité physique. Pour quelle raison? Car un sang qui contient trop de sucre voit sa viscosité augmenter et donc sa circulation entravée. Sauf que le sang permet d'acheminer les bons nutriments ainsi que l'oxygène aux organes de votre corps ainsi qu'à votre cerveau. Donc il y a littéralement un risque pour la survie de votre corps quand l'équilibre est perturbé. C'est la raison pour laquelle, dès que le déséquilibre va se mettre en place, à la hausse encore une fois, on verra l'impact à la baisse juste après, eh bien automatiquement, votre cerveau va enclencher la production d'une hormone. Une hormone qu'on appelle l'insuline. Et le but de l'insuline est extrêmement simple, c'est de déstocker le sucre en trop dans votre sang pour venir le placer directement dans vos muscles, dans votre foie, et quand ces deux derniers sont pleins, dans vos réserves de gras sous forme de triglycérides. Sauf que l'insuline, comme j'en parle dans mon livre d'ailleurs, suit un mode opératoire assez atypique. Le mode opératoire que j'ai appelé la défense disproportionnée. Autrement dit, plus le pic de glucose va être élevé, notamment quand il va dépasser les 1,2 g par litre de sang, plus l'insuline va retirer de sucre en trop de votre système sanguin. Si bien que parfois vous allez passer sous la barre des 0,7 g de sucre par litre de sang. Et là, c'est la panique. Pourquoi? Parce que votre cerveau n'a plus assez de sucre à disposition immédiate pour fonctionner. En effet, le sucre, donc le glucose encore une fois, est le carburant principal de votre cerveau. Et ça, c'est un triple effet négatif. Premier effet négatif, le fait que votre cerveau va couper toutes les fonctions qu'il juge inutiles à sa survie immédiate, dont vos fonctions cognitives. Votre capacité à raisonner, à réfléchir, à apprendre, à mémoriser, à passer à l'action. Ensuite, deuxième effet négatif, une baisse directe de vos niveaux d'énergie. Ce qui explique littéralement le coup de barre que vous ressentez vous potentiellement après la prise de votre repas du midi. Coup de barre qui vous fait potentiellement perdre 1 heure à 1h30 de productivité par jour. Car vous êtes vous dans un état littéralement qui empêche la productivité, qui empêche la concentration. Car vous n'avez ni les ressources cognitives à disposition pour être efficace, ni l'énergie nécessaire pour passer à l'action. Et enfin, troisième effet négatif, c'est le fait que votre cerveau va vous envoyer un signal inconscient qui va vous pousser à aller consommer de nouveau des aliments qui sont riches en sucre pour recharger rapidement ses réserves d'énergie. Sauf que ces aliments riches en sucre en question vont vous faire retomber directement dans le schéma négatif dont on vient de parler. Et c'est comme ça que vous allez vous retrouver, vous, avec une instabilité constante de vos niveaux d'énergie, de concentration et de motivation. Et le pire, pour boucler avec la courbe biologique de la productivité dont on a parlé précédemment, c'est que si l'impact que l'on vient de voir, donc l'hypoglycémie réactionnelle, donc le creux d'énergie provoqué par une mauvaise consommation d'aliments, survient lors d'un pic naturel d'énergie, relatif du coup à la courbe biologique de la productivité et de la performance, eh bien littéralement, vous allez gâcher ce pic-là. Vous allez l'atténuer, vous allez le supprimer. Donc vous allez passer, vous, à côté, à cause de ça, à cause de ce mauvais choix alimentaire, on va dire, de votre meilleure phase de productivité de la journée. Et ensuite, si jamais cette hypoglycémie réactionnelle-là survient lors d'un creux naturel d'énergie, eh bien vous allez accentuer ce creux. Vous allez le rendre encore plus profond, encore plus conséquent et surtout encore plus durable dans le temps. Ok, donc là on est sur le premier volet, on va dire, de l'impact de la nutrition sur la courbe biologique de la performance et de la productivité. Ensuite, deuxième impact, comme j'ai pu le dire précédemment, c'est la suractivation de vos fonctions digestives. En effet, je ne vous apprends rien, je pense, lorsque vous mangez, vous allez activer votre système digestif pour tout simplement assimiler les aliments que vous venez de consommer. La digestion, ça a un coût. Ce n'est pas neutre, ce n'est pas transparent. Un coût, du coup, qui nécessite de l'énergie, la mobilisation des ressources énergétiques de votre corps pour digérer efficacement. Sauf que l'énergie qui va être allouée à vos fonctions digestives, naturellement, ne pourra pas être allouée ailleurs, et notamment ne pourra pas être allouée à vos fonctions cognitives. Donc, si pendant votre pic naturel d'énergie en journée, vous êtes dans un état de suractivation digestive, naturellement ce pic va être diminué. Car à nouveau, l'énergie ne se crée pas. On a une quantité limitée d'énergie à un instant T dans le corps. Et forcément, cette énergie va devoir se répartir en fonction de vos besoins. Donc s'il y a un besoin accru de digestion, naturellement la fonction cognitive, tout ce qui est réflexion, productivité, motivation, que j'en passe, va en faire les frais. Donc on veut éviter, lors de votre pic principal d'énergie, d'avoir d'une part un phénomène d'hypoglycémie réactionnelle qui va niveler la courbe vers le bas, et un phénomène de suractivation digestive qui va également à ce niveau amenuiser l'intensité de ce fameux pic de productivité que l'on veut justement avoir, respecter et connaître pour être plus efficace au quotidien. Très bien. Maintenant, à partir de là, de ces deux éléments-là, de ce constat-là, eh bien nous allons pouvoir en tirer des conclusions. Et notamment trois conclusions principales, à savoir quoi manger le matin, quoi manger le midi et quoi manger le soir. On va commencer par le matin. Le matin, c'est simple, on évite le traditionnel petit déjeuner à la française, c'est-à-dire le pain, confiture, beurre, croissant, lait et jus de fruits. Pour quelle raison ? Car l'ensemble des aliments que je viens de citer, également les céréales en font partie, sont des bombes glycémiques. Donc, littéralement, l'ingestion de ces aliments-là vont faire exploser votre taux de sucre dans le sang. Donc, on va privilégier, à l'inverse, des aliments qui ne provoquent pas ce pic-là. À savoir, les matières grasses et les sources de protéines dites faciles à digérer. Donc, les protéines que l'on va qualifier de légères. Autrement dit, on privilégie tout ce qui est avocat, huile d'olive, tout ce qui est également oléagineux. Donc là, c'est pour les sources de matières grasses. Et enfin, pour les protéines, on privilégie le poisson blanc ou encore les viandes blanches ou les œufs. Car à nouveau, encore une fois, ces types de protéines-là, à l'inverse par exemple des viandes rouges, sont simples à digérer par notre organisme et donc vont éviter la mobilisation de l'énergie dont on a parlé précédemment. Et l'idéal, le matin, c'est de pratiquer le jeûne intermittent. Donc ne pas manger le matin. Car là, d'une part, on va tout simplement ne pas faire varier la fluctuation de nos niveaux de glycémie, car on n'ingère aucun aliment. Et d'autre part, on va également ne pas activer le système digestif. Car à nouveau, encore une fois, pourquoi ce système-là irait s'activer alors qu'on n'a rien consommé? Ensuite, quoi manger le midi? Le midi, on a avant toute chose besoin de carburant mental pour être productif et efficace. Donc là, on va faire une petite parenthèse rapide. On va simplifier ce qu'on appelle les macronutriments. Les macronutriments étant simplement les protéines, les glucides et les lipides. Donc, si on simplifie un peu le rôle de ces macronutriments-là, d'une part, on a les protéines qui sont là pour la construction, construction musculaire, construction tissulaire et construction également des neurotransmetteurs. Ensuite, nous avons les glucides qui, elles, ont davantage un rôle de carburant physique, car le glucose va être l'énergie mobilisée principalement pour faire du sport. Ensuite, nous avons du coup les lipides pour terminer, qui, elles, vont avoir davantage un rôle, si on simplifie encore une fois les choses, de carburant pour le cerveau. Et donc, que souhaitons-nous avoir pour être productif en journée? Eh bien, du carburant pour le cerveau. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, le midi, il faut privilégier autant que faire se peut un repas proche de celui du matin. Donc, à savoir des lipides et des protéines légères. Et éventuellement, si vous avez fait du sport, vous, le matin, ou si vous comptez en faire juste après, consommez des glucides. Mais des glucides à faible indice glycémique ou à indice glycémique modéré. Autrement dit, des glucides qui vont très peu, justement, faire varier votre taux de sucre dans le sang. Très peu sur la durée et très peu en intensité. Par exemple, les patates douces, le quinoa ou encore le riz complet. Ok. Ensuite, maintenant, dernier élément, quoi manger le soir? Le soir, on a besoin de reconstruction. En effet, on a fait preuve d'efficacité et de productivité durant toute la journée, donc on a dégradé notre corps. Maintenant, il faut le rebâtir pour qu'il puisse repartir sur de bonnes bases pour la journée du lendemain. On l'a vu précédemment, qu'est-ce qui permet de rebâtir et de reconstruire? Ce sont les protéines. Et là, cette fois-ci, au lieu de consommer des protéines faibles, il peut être vraiment intéressant de consommer des protéines complexes, telles que, encore une fois, la viande rouge ou encore les poissons gras. Pour quelle raison? Car déjà, ces aliments-là sont source de protéines, donc de reconstruction. Mais ensuite, ils vont venir, ces aliments-là, de par leur complexité digestive, suractiver notre système nerveux dit parasympathique, qui est la branche de notre système nerveux appelée rest and digest, donc repos et digestion. Et donc, en venant suractiver ce système nerveux-là, naturellement, on va placer notre corps dans des conditions optimales pour bien dormir. Si, et seulement si, bien évidemment, le repas en question est pris au moins 2 à 3 heures, voire carrément 4 heures, avant l'heure du coucher. Car simplement, la mélatonine produite en fin de journée, notamment en soirée, vient inhiber le système digestif. Donc si on force ce système-là à travailler alors qu'il est censé être au repos, naturellement, on va d'une part entraver la qualité de la digestion et également entraver la qualité de la nuit. Ce qui aura naturellement des conséquences le lendemain au réveil, et donc on va démarrer une nouvelle journée avec des niveaux d'énergie beaucoup trop faibles pour être efficace et productif. Voilà pour cet épisode sur le timing de la prise des aliments pour être plus productif et plus efficace au quotidien. Pour conclure, 4 choses. Première chose, attention au dogmatisme. Je propose des plans, je n'impose pas des plans. L'idée, c'est que vous puissiez vous tester ces choses-là sur vous pour voir comment votre corps réagit. Ensuite, deuxième chose, on est sur un podcast. Donc, les éléments que je vous partage sont par nature lacunaires. Je ne présente pas une vision exhaustive des choses, contrairement à mes formations où là, je rentre plus dans le détail. Donc, effectivement, d'autres actions permettent de niveler soit vers le haut, soit vers le bas vos niveaux d'énergie, de concentration ou de motivation. Il n'y a pas que la nutrition qui vient influencer votre capacité à faire preuve d'énergie au quotidien. Ensuite, troisième chose, je tiens à vous rappeler comme toujours que vous avez accès à la fiche résumée de l'épisode pour retrouver facilement les points clés et également vous pouvez télécharger ma vidéo sur ma routine matinale facilement via les liens présents en description. Et toute dernière chose, la plus importante, ce que je viens de partager concerne également vos enfants. En effet, en faisant bien manger vos enfants au bon moment, vous pourrez littéralement leur donner, entre guillemets, un avantage par rapport aux autres enfants. En leur permettant d'avoir constamment des niveaux d'énergie stables en journée. En leur permettant de faire des actions qui sont en lien avec leur biologie. En leur permettant surtout d'arrêter de lutter contre leur corps, contre leurs fonctions physiologiques naturelles. Et ça, ça peut faire la différence. Et même ça va faire la différence, tant au niveau de leur scolarité, qu'au niveau de leur performance sportive, qu'au niveau de la relation qu'ils vont avoir aux autres, et par rapport également à leur capacité à être confiants par rapport à eux-mêmes. Car en respectant son corps, on peut en tirer pleinement bénéfice. En respectant son cerveau, on peut augmenter ses capacités de concentration, de motivation, et donc sa productivité. Et littéralement, tout est beaucoup plus simple au quotidien, tant en tant qu'adulte, tant en tant qu'enfant, tant en tant qu'adolescent, quand on respecte son corps et quand on respecte les lois que nous impose le vivant. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.